vue d'ensemble de l'actualité.
Is this what Americans should now expect from their president? If this is not impeachable conduct, what is?
Réville PM.
C'est le président de la commission, donc, du Congrès, là, qui tient ses audiences publiques. Il s'appelle Adam Schiff. Donc, il dit, est-ce que c'est ce à quoi on doit s'attendre d'un président américain? Et si ce n'est pas suffisant pour le destituer, qu'est-ce que ça va prendre? Là, je paraphrase. On va aller rejoindre pour faire un peu le point sur cette affaire, parce que c'est à matin là, que ça a commencé, les témoignages publics, donc de l'enquête sur Donald Trump qui pourrait mener à sa destitution. On en parle avec Charles-Philippe David, donc le président de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Charles-Philippe David, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
D'abord, Charles-Philippe, résumez-nous avec beaucoup de vulgarisation ce dont il s'agit ici, sans entrer trop dans le détail, juste pour qu'on comprenne bien l'enjeu, là.
Ben, vous avez bien raison, parce qu'en fait, ces auditions de ce matin visent à convaincre l'opinion publique que le président Trump a donc abusé de son pouvoir. Alors, c'est très vrai qu'il faut que les gens comprennent, comme les Américains, qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe essentiellement, c'est que l'aide économique et militaire consentie par les États-Unis à l'Ukraine a été rendue, de toute évidence, conditionnelle à l'ouverture ou l'annonce officielle de l'ouverture d'une enquête par le gouvernement ukrainien sur la possible ingérence et peut-être même fraude, voire corruption, du fils de Joe Biden. Je rappelle à tout le monde que Joe Biden est l'un des candidats quand même majeurs de la campagne électorale qui s'annonce, et que son fils aurait donc été impliqué dans des choses peut-être répréhensibles. Cette conditionnalité est vraiment ce qui pose problème, parce que pour les démocrates, pas les républicains cependant, mais pour les démocrates, c'est un abus de pouvoir, c'est pour des fins de politique intérieure et non pas de politique étrangère, que Donald Trump aurait subordonné, avec l'assentiment de Donald Trump, avec la collusion, c'est le terme consacré tout le temps, de certains de ses conseillers pour manipuler le gouvernement ukrainien et surtout son nouveau chef d'État, son nouveau président Zelensky, pour faire une annonce comme ça, publique, là, de la possible fraude du fils du candidat démocrate. Imaginez un peu. Pour les démocrates, c'est un abus de pouvoir. Certains, c'est destituable. C'est destituable. Jamais... on est d'accord avec l'idée que la politique étrangère doit servir des fins partisanes de politique intérieure. Alors, voilà. C'est ça l'argument démocrate.
Et parlez-nous des deux témoins qu'on a entendus ce matin-là.
Ben, ils font mal. Ils font mal à Donald Trump parce que, à la fois, l'assistant secrétaire d'État, le haut fonctionnaire, on va l'appeler comme ça, M. Kent, que l'ancien ambassadeur à Kiev, M. Taylor, font très mal à Donald Trump parce qu'ils révèlent une autre chose qui, disons, est assez répréhensible, c'est le fait que toute cette politique et toutes ces décisions-là face à l'Ukraine ont été le fait de quelques personnes autour de Donald Trump, en particulier, je pense que tout le monde a entendu son nom, son incroyable avocat personnel, Rudy Giuliani, qui aurait mené toute cette opération-là contre l'avis, contre l'appui, et avec beaucoup de questionnements, de doutes et de critiques de la part des hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis. Donc, autrement dit, les fonctionnaires américains leur font très, très mal, font mal paraître le président des États-Unis. Alors ça, bien sûr, c'est le point de vue, évidemment, démocrate.
Charles-Philippe, vous parliez de l'opinion publique dès le départ. Évidemment, les démocrates, on sait bien là, qu'en bout de ligne, les dés sont pas mal pipés. Là. Ils vont voter la destitution, mais après ça, ils vont voter l'impeachment. Et après ça, ça va s'en aller au Sénat. Et le Sénat va agir un peu comme tribunal. Et c'est le Sénat, ultimement, qui va décider.
Très exactement.
Et on sait bien qu'ils n'ont pas les votes. Les républicains vont être capables de bloquer, dans le fond, l'intention des démocrates de destituer Trump. La question est de savoir... Est-ce que, grâce à ces audiences publiques, il peut y avoir suffisamment de pression populaire pour amener certains sénateurs républicains à voter avec les sénateurs démocrates pour destituer Trump en bout de ligne? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
Ben, vous êtes d'accord, M. Drainville, qu'à l'ère de Donald Trump, on ne se risque plus à prédire certainement quoi que ce soit. Parce qu'on est toujours déjoué dans nos pronostics. Mais je pense que vous avez raison de dire qu'il y a 20 sénateurs et sénatrices républicains qui ont entre leurs mains, 20, hein, j'insiste, une vingtaine de personnes, le sort de Donald Trump et l'avenir politique des États-Unis dans leurs mains. C'est pas beaucoup de gens qui ont cette grosse décision à prendre dans quelques mois. Qu'est-ce qui peut survenir entre maintenant et cette décision incroyable qu'ils devront prendre, peut-être prévisible comme vous le dites? Ça, c'est une autre question. Même à l'époque du Watergate, vous savez, on disait que c'était peu probable que Nixon soit destitué. Puis est survenue toute cette question des enregistrements qui ont révélé absolument l'ignominie de Richard Nixon. Qu'est-ce qui pourrait survenir entre maintenant et, disons, le mois de février, mars, qui pourrait être très, très, très dommageable à Donald Trump? Comme vous, j'ai des doutes. Je pense que, d'ailleurs, vous avez vu ce matin les Républicains réagir avec un front uni, là, contre ces enquêtes-là, contre l'accusation, répétant ce que dit Donald Trump, qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières et qu'il est tout à fait légitimé de faire cet appel et exiger ça du président ukrainien. Donc, c'est très polarisé. Ça va prendre quelque chose de spectaculaire
pour
changer l'allure politique, la décision, le verdict politique, comme vous le dites, des 20 sénateurs républicains. Mais je me garde une petite réserve parce que, encore une fois, oui, des surprises sont possibles.
Oui, mais c'est ça. Il va falloir... pour que le fond républicain se lézarde, pour que l'unité républicaine... finalement se brise, puis que t'as des sénateurs républicains qui virent le capot de bord, puis qui décident, dans le fond, de lâcher Trump, il va falloir qu'il se passe quelque chose de très gros entre maintenant et les audiences au Sénat. Il va falloir
c'est
qu'il...
C'est à peu près aussi simple que ça. Il y en a un en particulier que je surveille, parce que c'est le grand ami de Donald Trump. Vous me voyez venir, le sénateur Lindsey Graham.
Ouais.
Ben, là, c'est Lindsey Graham. Écoutez, pour des raisons que j'ignore, je sais pas, dans un mois... commence à évoquer des drôles de questions et avoir des drôles de remarques. Mais là, je vous dirais, vous vous souvenez de notre discussion du mois de novembre, M. Drainville? Voici une surprise pour laquelle on ne s'attendait pas. Lindsey Graham, un peu comme Barry Goldwater en 1973, change son fusil d'épaule. Écoutez, c'est un film de science-fiction, peut-être aujourd'hui, rien n'est exclu, c'est fort, fort, peu probable, mais je pense quand même que, comme un match de hockey, écoutez, ces auditions-là vont durer des semaines.
C'est ça.
Qu'est-ce qui peut être dit à un moment donné qui correspond dans le langage politique américain, mais je crois que tout le monde va comprendre, à ce qu'on surnomme le smoking gun?
C'est ça.
C'est l'élément surprise qui fait vraiment basculer l'opinion publique. C'est sûr que ça peut arriver. Maintenant, dans l'état actuel des choses, vous avez parfaitement raison de dire que c'est un peu mort-né au feuilleton. Puis en fait, la question est de savoir... La question qui tue, comme dirait l'autre, hein, c'est de savoir est-ce que ces auditions, sans obtenir la destitution de Donald Trump, enfin son renvoi, peuvent tellement affaiblir ce président-là qu'il est battu dans les élections présidentielles de moins d'un an.
Voilà, ça c'est le calcul des démocrates.
C'est le calcul des démocrates et ça, je pense que c'est un calcul beaucoup plus payant pour eux. Et tu sais, qui fait mal à terme à ce président-là tous les jours. On affaiblit tous les jours de plus en plus ce président. Plus d'Américains sont en faveur de cette décision. Puis là, ça crée un mouvement un peu de dégoût.
Exactement.
Et là, ça change un peu l'opinion de quelques indécis, parce que c'est comme ça que ça va jouer, dans quelques États, qui avaient voté pour Trump et puis qui voteront pour un autre. Mais là, tout ça, c'est sur des si. Et écoutez, personne ne sait où on s'en va et qu'est-ce qui va survenir entre maintenant et le 3 novembre 2020.
À surveiller, Charles-Philippe David, président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Merci, Charles-Philippe.
J'en prie, M. Drainville.
Au revoir. Dans un instant, on rebondit sur l'affaire du vol de données de Desjardins parce que, figurez-vous donc, nos élus à l'Assemblée nationale se sont finalement entendus. Bon, c'est pas encore officiel, ça va se faire demain, là, mais selon toute vraisemblance, ils se sont entendus pour convoquer les dirigeants de Desjardins pour qu'ils rendent des comptes à nos élus, à nos députés. Et puis Equifax également va devoir répondre aux questions. Bref, on parle de tout ça après la pause.